On vous en avait parlé sur Radio Pont. Nous y sommes allés. Nous avons pris quelques enregistrements. Les voici.
Bonjour les auditeurs, c'est l'équipe de Radio Pont au Festival des 3R où nous rejoignons Eva Maria. Bonjour Eva.
Bonjour.
Est-ce que avant de commencer, vous pourriez nous faire une petite présentation de votre association ?
Oui, TerreDev, donc Terre et Développement. C'est une association plutôt spécialisée dans l'éducation, la sensibilisation au développement durable. Elle est née il y a maintenant 9 ans au Guatemala, donc en Amérique latine. Par sensibilisation au développement durable, on entend susciter une prise de conscience, donner l'envie, les moyens d'agir pour une plus grande considération des enjeux environnementaux, de la place de l'homme au sein de la nature. Donc on a plutôt une approche non pas environnementaliste, mais plutôt humaine et sociétale, où on travaille sur la notion d'éco-citoyenneté, les savoirs, savoir-être et savoir-faire en faveur de l'environnement. Notre thématique plus particulière, c'est la gestion de l'eau, la gestion des déchets, le climat, santé-environnement, et la solidarité internationale de par, finalement, l'expérience de l'association en Amérique latine.
Donc, on est ici pour présenter donc, le festival et tu vas nous présenter donc, toute l'équipe.
Voilà, c'est ça. Et avant cela, donc, le concept du festival, on est sur une avant-première cette année. Donc, une toute première édition, à petite échelle pour commencer, dans la Maison de la Solidarité, à côté du petit Leclerc de Saint-Labille aux Dames. Et c'est un festival qui est donc un événementiel pour fêter et promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction, réutilisation et recyclage des déchets.
Et donc, on va commencer par quel stand en premier ?
Eh bien, on va commencer en fait par le projet d'un collège, Agrippa d'Aubigné, et qui a donc un projet de Fab Lab. Franck, représenté par Franck aujourd'hui. Donc alors, Franck, peux-tu un petit peu nous raconter peut-être l'historique du projet, dans quel contexte s'inscrit ce projet, et puis le concept du Fab Lab ?
Donc bonjour. Bonjour. Oui, donc voilà, Franck. Je suis enseignant au collège Agrippa d'Aubigné depuis quelques années et l'an dernier on a eu un projet de Fab Lab, donc un Fab Lab c'est un laboratoire de fabrication numérique au collège Agrippa d'Aubigné. On a des élèves qui ont des projets de fabrication d'objets en trois dimensions, donc ils viennent au Fab Lab, ils dessinent en trois dimensions leur projet et on a une machine qui va reproduire en plastique, un plastique recyclable, biodégradable, les objets qu'ils ont pu dessiner, concevoir dans le cadre du Fab Lab. On a quelque chose d'intéressant pour les élèves.
Très bien. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait voir l'un de leurs projets que vous
bien
nous
sûr.
Avez montré tout à l'heure,
bien
s'il
sûr.
Vous plaît ?
Là, on a donc un projet d'élèves du Fab Lab. Dans le cadre des cours de technologie, on a des élèves qui partaient en Angleterre. Et le Fab Lab a conçu un support de téléphone portable, support de papier. Donc ça a été imaginé par les élèves et ensuite ça a été vendu aux familles au profit du voyage en Angleterre pour les élèves du collège Agrippa d'Aubigné.
D'accord, donc c'est eux qui ont tout fait.
Exactement. Donc les élèves ont dessiné, imprimé, vendu, conçu, voilà.
Tu auras l'occasion de pouvoir présenter ce concept innovant, un concept de nouvelle génération et qui est dans l'optique d'économie circulaire où finalement voilà, on cherche à avoir des nouvelles matières premières pour éviter d'avoir à exploiter des ressources initiales. Merci Franck. Alors, Boris.
Bonjour.
Bonjour. Alors, donc, toi, tu représentes le Ripper Café aujourd'hui. Un Ripper Café qui est installé à Niort aujourd'hui. Dites-moi un petit peu comment est né ce concept, en quoi ça consiste, avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous y faites, et puis qu'est-ce que tu souhaiterais aussi qu'il se passe ici, sur en Saint-Onge, du moins.
Alors, le Ripper Café, c'est un concept qui est né dans les Pays-Bas. Je pense qu'il y en a un peu plus de 1200 dans le monde entier. Et le principe du Ripper Café, c'est simple, c'est d'ouvrir un lieu, alors soit éphémère, soit permanent, où on invite les gens à venir faire réparer gratuitement leurs objets du quotidien, un grille-pain, un aspirateur, etc. Une équipe de réparateurs bénévoles les accueille. Et le principe, c'est de dire aux gens, il vaut mieux réparer au lieu de jeter. C'est aussi d'inciter les gens à oser ouvrir leur appareil et aller voir ce qu'il y a dedans. c'est pour dédramatiser un peu le fait de faire ça et du coup leur donner une autre relation avec leur objet du quotidien. Et si un aspirateur fait un peu de bruit, peut-être que c'est juste un peu de poussière qu'il faut enlever, voilà. Donc sur New York, on a ouvert il y a un peu plus d'un an et demi. On a fait à peu près 16 ou 17 Repair Café. Donc nous, on le fait une fois par mois sur la matinée d'un samedi. Et on a environ entre 30 et 45 personnes qui viennent par séance. On doit avoir à peu près autant d'objets, on en répare à peu près la moitié. On n'a donc que des bénévoles, et dans un Repair Café, il n'y a que les compétences qui sont amenées par les bénévoles, ce qui est déjà beaucoup. Et donc, on ne peut pas forcément tout réparer, tout n'est pas forcément réparable non plus. Donc voilà, on a lancé ça il y a un an et demi. Au fur et à mesure, on s'est un peu équipé. Au départ, on faisait qu'avec nos propres outils. Et ensuite, au fur et à mesure, parce que c'est quelque chose de gratuit, mais on met une boîte à dons et les gens donnent ce qu'ils veulent. Et au fur et à mesure, on a acheté des outils pour le Repair Café. On a aidé un autre Repair Café à se monter sur New York. Et moi, mon idée maintenant, puisque je vais bientôt m'installer sur Sainte et en Saint-Angers, j'aimerais bien relancer un peu l'idée sur ce territoire-là, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est nécessaire de pouvoir réparer au lieu de jeter. Et intéressant, et puis même humainement, ça crée des liens entre les gens. Les gens s'aperçoivent que finalement, ils peuvent réparer des choses, alors que jusqu'à ils pensaient que c'était quelque chose d'un autre monde de pouvoir ouvrir n'importe quel objet et puis de le réparer. Donc voilà, c'est un projet qui moi me tient à cœur et que j'aimerais bien reproduire ici.
Et vous cherchez donc des bénévoles pour ça?
Ah ouais, ça serait super bien. des bénévoles, des gens qui sont intéressés même en tant que public, et des bénévoles pour organiser la chose, parce que du coup il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut trouver un local, il faut organiser les Repair Cafés. C'est pas un projet qui se fait tout seul, d'abord c'est pas intéressant de le faire tout seul, et puis voilà, c'est quelque chose où il faut être au moins 5-6 à apporter le truc, quoi. Donc voilà, ouais. Effectivement, je lance un appel. S'il y a des gens qui sont intéressés pour monter ce Repair Café, déjà renseignez-vous soit auprès de moi, soit en allant voir sur internet ce que c'est un Repair Café. Ben, vous pouvez me contacter éventuellement à l'email boris.leblay@gmail.com.
Merci Boris. Merci. Donc on continue la visite.
Alors avec donc Big Up 17. Big Up 17, nouveau projet sur Sainte, donc implanté depuis combien d'années, Bernard? En cours d'implantation, mais qui est déjà donc bien présent pour pouvoir nous parler de ses diverses activités, donc toujours en lien avec les 3R. Donc Bernard, raconte-nous un petit peu l'historique du projet et puis quelles sont les activités que l'on peut trouver sur le futur site de Big Up 17.
L'historique du projet, c'est un groupe d'amis, de personnes qui veulent monter leur couveuse d'activité sur une base de recyclerie, donc faire nos ateliers de conception, fabrication et ouvrir ces ateliers après à qui voudra, pour faire des démonstrations, pour pouvoir bricoler du papier, du bois, du métal, pas mal de choses. Donc les statuts d'association sont déposés depuis mars 2016 et là on est en train de visiter pas mal de locaux pour définir un lieu d'implantation. L'objectif étant d'ouvrir nos portes, on va dire fin du premier trimestre 2017, si tout se met bien en place, quoi.
Merci Bernard. Donc on continue notre petit chemin des acteurs des 3R avec donc Roule ma frite, antenne Onis et Saint-Onge. Roule ma frite est représentée par Baptiste Motin et Melvin Cossigou. Pouvez-nous un petit peu nous raconter l'historique de Roule ma frite, Onis et Saint-Onge et voir un petit peu en quoi ça consiste, quelles sont ses activités et auprès de qui en fait vous êtes en lien?
Eh bien Roule ma frite, ça existe depuis juin 2013. Et ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on récupère de l'huile de friture auprès des restaurateurs. Donc les restaurateurs font cuire des frites, ils ont un déchet, ils sont obligés de le changer. Et nous, avant qu'ils aient envie de le jeter dans l'évier, on passe récupérer ce déchet. Et notre travail derrière, ça va être de recycler ce déchet et de le transformer en énergie. Passer d'une poubelle à quelque chose qui produit de l'énergie. Et donc pour produire de l'énergie avec de l'huile de friture, il faut d'abord la nettoyer. Il faut la filtrer le plus finement possible pour enlever tout ce qui peut être mauvais dedans. Ce qu'on va enlever principalement, c'est les morceaux de pommes de terre, parce que ça marche mal dans les moteurs. On va enlever l'eau qui se cache dedans. Et on va enlever l'huile de palme, parce que pour plein de raisons, l'huile de palme, c'est pas bon, mais en plus, pour faire de l'énergie, on a un problème avec l'huile de palme. Donc ce qui va nous rester une fois qu'on a enlevé ces trois déchets, c'est de l'huile de colza et de tournesol mélangée. Cette huile-là, on va la filtrer de plus en plus petit, et on va obtenir une huile super propre, qui ressemble presque à de l'huile neuve. Et cette huile-là, on va pouvoir la mélanger au gasoil et faire tourner des vieux véhicules diesel. Des vieux camions, des vieux tracteurs, des vieilles voitures. Quand je dis vieux, c'est avant les années 2000. Nous, on a tout un réseau d'adhérents, les adhérents de l'asso, qui ont des vieilles voitures et qui décident de faire tourner leur voiture avec 20%, 30%, 50% d'huile de friture suivant le véhicule.
L'idée, c'est aussi de créer une source d'énergie locale. Et avec cette huile, on se rend compte qu'on a une matière où le champ des possibles est énormément varié, énormément ouvert, quoi. Ça peut passer au-delà du carburant qui est la première source d'énergie. C'est aussi la chaudière à fioul, l'huile pour les groupes électrogènes, pour les tronçonneuses et des fabrications de savon. Enfin, on passe sur un recyclage où on peut encore apprendre des choses demain, aujourd'hui, tout à l'heure. Enfin voilà, rien n'est figé, quoi.
Sauf l'huile de palme.
Sauf l'huile de palme au-dessous de 8 degrés.
Enfin, d'un point de vue moteur et tout ça, ça change absolument rien.
Alors il y a plein de petites choses techniques à savoir, mais après nous c'est notre boulot d'aller rencontrer quelqu'un qui veut rouler à l'huile et de regarder sa voiture. Nous, on a plein de petits détails techniques qu'on va savoir repérer sur une voiture pour définir, tiens, cette voiture, en fonction de ses caractéristiques, nous, on sait qu'elle peut rouler à 20% d'huile sans aucun problème, ou à 30%, ou à 50%. Et on va donner les techniques à chacun pour qu'en fonction de son véhicule, il puisse savoir à combien il peut rouler à l'huile, suivant aussi ses envies de bricolage. Et il y a plein de choses à définir avec la personne qui veut rouler à l'huile. Et nous, on est capable, avec notre retour d'expérience, parce qu'on a fait rouler beaucoup, beaucoup de gens à l'huile, on est capable de préconiser un pourcentage à pas dépasser pour pas être embêté.
Et d'un point de vue porte-monnaie ?
D'un point de vue porte-monnaie, on vend notre huile à 50 centimes le litre. Donc on voit qu'on est quand même un peu moins cher que le carburant. Donc on vend notre huile à 50 centimes le litre, c'est-à-dire quand vous achetez de l'huile, vous gagnez à peu près 60 centimes sur le prix du gasoil. En plus, cet argent que vous avez dépensé, au lieu de le donner à Total, vous le donnez à une association locale qui essaye de créer de l'emploi localement. Et en plus, à la sortie de votre pot d'échappement, quand vous brûlez de l'huile, vous produisez 30% de particules fines en moins.
Merci Baptiste et Melvin. Merci, très bien.
Merci. Merci.
Donc Christine de Cyclades. Donc elle va nous présenter un petit peu la naissance de Cyclades, le concept, ou les activités, les personnes avec qui en fait vous travaillez, avec qui vous êtes en lien.
Donc bonjour à vous. Donc oui, Christine Medina, donc je suis chargée de mission réduction des déchets au syndicat mixte Cyclades. Donc le syndicat mixte Cyclades, c'est une collectivité qui a la compétence traitement et collecte des déchets ménagers sur le nord du département de la Charente-Maritime. Et donc par le biais du syndicat, on propose différentes animations autour du tri et de la réduction des déchets, au-delà de la collecte et de la gestion des déchetteries. Donc Eva Maria nous a proposé de tenir un stand autour de ces thèmes-là, sachant qu'en plus, cette semaine, depuis aujourd'hui jusqu'au 27 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc raison de plus pour qu'on soit présent aujourd'hui dans le cadre de ce festival. On a commencé ce matin par un atelier Cuisinons les restes, qui rentre dans le cadre du programme de réduction des déchets que l'on mène sur le territoire de la CDA de Sainte, pour sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets. Et là, cet après-midi, moi, je tiens un stand donc sur la réduction des déchets et sur le compostage, puisque du coup, le syndicat propose également des composteurs gratuits aux habitants du territoire de cette collectivité. Ça se passe par le biais de permanence, donc à Surgère, un vendredi par mois, et à Sainte, à l'écocite, le mercredi et vendredi après-midi.
Bien, merci beaucoup, Christine.
Mais de rien.
Voilà, donc Delphine, donc bonjour. Bonjour. Alors tu viens de Méché, des Vents du Tao. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qu'ils se vendent dans ta boutique. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de manière plus participative aussi pour le public qui est là.
Donc les Vents du Tao, en fait, c'est un atelier à Talmont. Donc là-bas, il y a une petite exposition de cerf-volant, et après on fait aussi c'est un atelier où on fait avec les enfants, on leur fait construire par exemple des cerf-volants, des objets éoliens, et nous on met en vente des objets éoliens principalement en récupération, donc en canette, en bouteille et tout ce qu'on peut recycler et détourner, on va dire. Et après là-bas, ma cousine fait une exposition où elle fait des sculptures avec des objets de cuisine, et pareil, elle expose donc recyclage à fond.
Et donc là, plus particulièrement, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme stand, comme activité ?
Ici, je vais proposer un atelier où les enfants vont construire une toupie avec un crayon de couleur et des bandelettes de papier qui vont coller les unes aux autres, et ça va donner une toupie vraiment style tibétaine, en fait, puisqu'eux font ça avec du papier tibétain, et nous, on a fait du papier recyclage.
Oh bah c'est super.
des vieux prospectus où après ça marche avec tout papier.
Ça redonne envie aussi aux enfants de pouvoir faire des activités, avoir le réflexe en fait, hein, de prendre ce qu'ils ont sous la main et non pas d'aller acheter des matières premières pour faire une activité.
Voilà. Et même déjà eux de travailler de leurs propres mains, de faire quelque chose de leurs propres mains, ça leur fait du bien
acheter,
aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait.
Très bien.
Tout
à fait. Merci Delphine.
Ben, merci à vous.
Merci.
À plus tard.
Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que tu nous fais comme petite activité aujourd'hui? Alors, et dans bonjour. Quel contexte par rapport à quoi?
Par rapport à quoi? Donc, je suis dans le cadre de l'association de Terre d'Ève. En fait, je travaille le carton sous toutes ses formes, pour le mettre en forme d'ailleurs, en forme de meuble, en fait, tout en carton.
D'accord.
Alors, le carton, comment ça marche? Ça marche par emboîtement, en fait. On met des petites traverses dans des gros systèmes. Et le fait qu'on puisse emboîter les cartons les uns dans les autres, ça permet de solidifier les choses. Et on peut faire une quantité de formes. Donc là, effectivement, vous ne le voyez pas, mais on a fabriqué avec les enfants, parce qu'on intervient en fait dans les écoles primaires, auprès d'enfants de CE2, CM1, CM2, pour fabriquer ce type de meuble. Et on a choisi avec ces enfants de faire un arbre bibliothèque cette année, en fait, pour qu'ils puissent accéder aussi à la connaissance de façon ludique. Et les enfants ont fait le dessin de l'arbre, ils ont découpé à la scie sauteuse, ils font les traverses avec les cutters, accompagnés bien entendu. Et nous sommes arrivés presque à la phase finale avant la peinture, en fait. Donc là, on a déjà une belle forme d'arbre en volume et en 3D qui va bientôt se finaliser tout en couleur.
Finalement, c'est des meubles qui reviennent pas très très cher.
Ça coûte trois fois rien parce que tout ça a été récupéré. Et en dehors des pistocoles en fait, et de la colle, ben, le reste coûte zéro. En fait. C'est de la récupération à 100%.
De la déco super personnalisée.
Super personnalisée. On peut faire toutes les formes qu'on veut. Du moment qu'on a compris le concept en fait, des traverses qui s'emboîtent les unes dans les autres, le reste, on peut le décliner à l'infini.
En termes de poids, à peu près?
Alors, au niveau du poids, en fait, à partir du moment où on a bien consolidé avec une quantité de traverses, quand on fait un siège, par exemple, dans ce même concept, on peut soutenir un poids de 80 kg. Donc le carton, mine de rien, quand il est très serré et bien assemblé, a vraiment une grande résistance, en fait. Donc là, on va pouvoir charger les bibliothèques pour y mettre sans problème. Là, il y aura peut-être de quoi mettre une trentaine de livres dans une case et peut-être une vingtaine dans celle-ci et à peu près une vingtaine dans celle-ci. Donc on va pouvoir mettre effectivement pas loin de 80 livres dans cette bibliothèque-là, sans problème.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci.
C'est Radio Pont avec les recycleurs de son. Bonsoir.
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 Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre musique qui est hors du commun?
Alors, en parler, c'est difficile. En fin de compte, c'était visuel et ça a écouté et puis aussi à danser.
Les recycleurs de son, c'est plutôt que d'acheter, consommer, jeter. Nous, c'est plutôt récupérer, transformer pour jouer. Voilà, c'est l'idée principale de base, c'est que notre environnement est fait de déchets. Nous, on les récupère et on s'en amuse.
Très bien. Et est-ce que vous auriez quelques petits exemples de vos instruments?
On part, nous, de la nature. C'est-à-dire on prend un objet dans la nature, comme on fait toutes les civilisations, et puis on en joue. Mais on l'a appris, ça, enfin, ça s'est transmis. Alors, on a eu cette idée de dire, avec tous ces déchets, c'est devenu un peu notre environnement quotidien. Trouver une feuille de lierre, par exemple, c'est compliqué, à Sainte, dans certains endroits, à côté du Leclerc, là-bas, du Termarché de Leclerc et compagnie. Donc, on peut trouver une boîte. Donc, on récupère la boîte, et puis avec ça, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on va commencer à travailler dessus, et puis on va essayer, et puis ça ne va pas marcher. Alors, on va recommencer, on va récupérer, recommencer, jusqu'à temps que l'objet devienne vraiment un instrument. Mais un instrument qui sonne, un instrument agréable à écouter, un instrument où on peut s'amuser, c'est-à-dire en tant que musicien, ça devient un vrai instrument, unique en son genre, certainement, très coloré, magnifique. C'est ce qui crée même l'illusion avec le public, c'est-à-dire le public qui voit là une bouteille de lac pour les cheveux, voilà, et tout d'un coup, paf! Ça devient une cornemuse avec un gant qui gonfle. Enfin, voilà, j'explique pas trop. C'est un spectacle à aller voir. Donc, c'est les recycleurs de son. Vous pouvez aller sur le site. C'est lesrecycleursdeson.wix.
Voilà, on a plein d'instruments. Un instrumentarium délirant. Un orgue à multiples siphons. Une canne à pêche électro-acoustique dont je suis le seul à savoir en jouer parce qu'il n'y en a qu'une seule au monde. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Hein, parce que je suis champion du monde de canne à pêche électro-acoustique. Et puis plein d'autres. On est débordant d'idées, d'imagination. Et en plus, on aime bien le bricolage. Et donc, associer bricolage, musique, pour nous, c'est C'est l'atmosphère des recycleurs, quoi.
On est dans le spectacle vivant, mais on est les musiciens sur scène. On vient avec tout, hein, le son, les lumières, donc on est content, on a des belles lumières sur nous. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas les organisateurs, les bénévoles qui nous invitent à venir, hein, et qui organisent ça, parce que c'est les travailleurs de l'ombre, eh bien on ne peut pas jouer. Donc nous, on profite de la radio pour dire un grand merci à Terre d'Ève et notamment à Eva Maria qui nous a fait venir.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
C'est de venir nous voir, ça c'est super. Et nous, ça tombe bien, on va là où on nous invite. Donc, voilà, y a pas de souci.
Et on adore la Charente.
Ouais, merci beaucoup.
Mais merci à toi aussi. Tout a été récupéré, transformé pour jouer de la musique. Allez, chauffe, Tony!